Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce débat de midi qui va nous faire prendre l'air aujourd'hui avec une drôle d'ambiance entre cuicui des oiseaux et coups de fusil. Et oui, on parle chasse, sujet ultra clivant, mais on va quand même essayer d'être constructif. La pression est de plus en plus forte à l'heure où les questions du bien-être animal et de protection de la nature s'imposent. La société bouge et le monde de la chasse peut sembler parfois décalé, voire d'un autre temps, avec plusieurs pratiques dénoncées. Quand lui avance au contraire qu'il répond à un besoin de connexion avec la nature et permet de défendre la ruralité. 55% des Français se disent encore aujourd'hui hostiles à la chasse. Le nombre de titulaires du permis a été divisé par deux ces 40 dernières années et les chasseurs vieillissent. Comment, dans ce contexte, la chasse peut-elle survivre? Enjeu de taille, et la fédération s'en est saisie avec un gros lifting depuis un an. Images modernisées et verdies, accent sur les citadins chasseurs, rajeunissement des troupes, sans oublier la féminisation, le tout incarné aujourd'hui par des comptes Instagram à faire pâlir les influenceurs. Ici, c'est recettes de burgers au chevreuil et stories en tenue de camouflage et fusil sur fond de musique électro. Loin des lourdeaux inconnus avec leur galinette cendrée, les chasseurs seraient presque tendance aujourd'hui, mais est-ce que ce sera suffisant? Autrement dit, la chasse a-t-elle de l'avenir? On en débat jusqu'à 13h.
Camille Cronier, le débat de midi sur France Inter.
Et comme tous les jours, j'attends vos messages et questions sur l'application France Inter par mail ou sur Twitter avec le mot-clé débat de midi. Et j'accueille Marine alias Insta Chasseresse. Bonjour.
Bonjour Camille.
Alors vous voulez pas qu'on donne votre nom de famille, je le précise, pour quelle raison?
Exactement. C'est personnel, c'est pour protéger mon entourage mais également moi. Quand je remarque de la violence et de la part des anti-chasses, je préfère me protéger et protéger mes proches.
Et donc vous êtes chasseresse, on dit comme ça, pourquoi pas chasseuse?
Exactement. Chasseresse, c'est une manière de sublimer. Ça vient de la Diane chasseresse, la déesse de la chasse.
Bonjour Christophe Baticle.
Bonjour.
Vous êtes socio-anthropologue à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens, spécialiste de la ruralité et de la chasse. Et vous ne nous direz pas, vous, d'ailleurs, si vous pratiquez ou pas, pour quelles raisons?
Spécialisé plutôt sur les questions d'espace, hein, mais effectivement c'était plutôt le rural au départ, bah, tout simplement au nom du principe de distanciation, c'est-à-dire que généralement l'engagement est très mauvais conseillé. Donc le principe qu'on a retenu, notamment dans les sciences sociales, c'est d'essayer d'être le plus distant possible, et c'est ce que je m'efforce de faire.
Comme tout bon chercheur. Bonjour Pierre Rigaud.
Bonjour Camille.
Vous êtes l'un des visages les plus connus des anti-chasses en France, naturaliste, et auteur de ce livre « Ma campagne » avec Arnaud Tétlin, paru en avril chez Belin. Et Willy Schran est là aussi, bonjour.
Bonjour Camille.
Vous êtes président de la Fédération Nationale des Chasseurs, et vous avez publié aux éditions Gerfaux en août dernier ce livre que j'ai également dans les mains, « Un chasseur en campagne ». Vous êtes en campagne pour la présidentielle? Non.
On est toujours en campagne.
Alors Willy Schran, Pierre Rigaud, vous avez accepté de débattre une nouvelle fois ensemble, comme c'est déjà arrivé ici d'ailleurs, mais on va pas l'apprendre on va peut-être l'apprendre à certains, mais beaucoup le savent, vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde. Hein. Donc je vais vous demander, avant qu'on commence, de me laisser, s'il vous plaît, vous donner la parole, ça sera fait de façon équitable. Et s'il vous plaît, d'essayer de pas trop vous marcher dessus, sinon c'est la cacophonie, je vais devoir vous couper. Et je vous dis que les auditeurs ont horreur de ça, ils arrêtent pas de m'engueuler quand ça arrive, donc merci d'avance pour eux et pour moi. Marine, vous faites partie de la nouvelle génération de chasseurs, puisque vous avez 28 ans, c'est ça?
Exactement.
Comment et quand vous vous êtes mise à la chasse, vous?
Alors j'ai accompagné il y a maintenant 10 ans mon copain qui m'a fait découvrir donc tout le monde cynégétique, et j'ai passé mon permis de chasser en cachette il y a maintenant 3 ans.
En cachette?
Exactement, pour lui faire la surprise. Parce que je voulais le surprendre, mais je voulais également y arriver toute seule comme une grande, et c'est ce que j'ai fait donc il y a 3 ans.
Et votre entourage et vos collègues en particulier dans la start-up pour laquelle vous travaillez,
exactement,
ils savent, ils disent quoi?
Alors je suis très transparente sur ma passion, d'ailleurs en entretien c'était un élément qui était important et que j'ai souligné. Ils sont au courant, ils sont très content que je parte chasser et que je puisse leur ramener et leur faire déguster du gibier.
Willy Schran, les Insta chasseresses comme Marine, elles sont nombreuses hein, sur les réseaux sociaux. Je le disais, c'est un peu la nouvelle image, la nouvelle incarnation que vous voulez donner du monde de la chasse.
D'abord, elles sont totalement indépendantes, hein. Elles n'ont strictement rien à voir avec la Fédération nationale des chasseurs. Je pense que elles occupent un espace qui s'est créé naturellement. Des fois, d'ailleurs, en premier lieu, en réponse à beaucoup d'attaques contre nous, il y a des gens passionnés qui partagent pas effectivement ces positions d'opposition et de stigmatisation de la chasse. Et donc, voilà, elles se sont positionnées elles-mêmes, toutes seules.
Mais ça vous fait du bien à la Fédération que vous représentez ?
Ça fait du bien au monde de la chasse en général et à la ruralité plus largement. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. On avait pendant trop longtemps, on s'est fortement caché au niveau de la chasse et on s'était dit pour être tranquille, on va vite se cacher. C'était une erreur magistrale. Et aujourd'hui, sans qu'on leur dise rien, vous avez des jeunes comme Marine qui disent « Mais moi, je vais parler de la chasse, de ma passion et je vais expliquer pourquoi j'aime la chasse. » Et je pense que c'est très bien d'avoir effectivement un débat équilibré au niveau des réseaux sociaux.
Pierre Rigaud, l'instagramisation, si je peux le dire comme ça, de la chasse, la modernisation en tout cas de son image dans la communication, vous en pensez quoi ? Vous qui suivez quand même ce monde de la chasse, malgré votre opposition, est-ce que ça reflète une réalité sur le terrain ?
Pas vraiment, c'est vraiment, bon, c'est de la com, c'est même que les gens soient indépendants ou pas, parce qu'il y a aussi la Fédération de chasse qui dépense beaucoup d'argent pour faire vraiment des clips promotionnels, des campagnes publicitaires.
On va en parler, ouais.
Les Instagrammeuses ou les Instagrammeurs, c'est un peu dans cette lignée-là, c'est-à-dire un peu de redorer l'image de la chasse et de montrer tous les aspects plutôt à côté de la chasse, c'est-à-dire la camaraderie, le côté on est bien dans la nature, le côté on promène son chien, le côté convivial, sauvage et tout. Puis en fait, moi c'est l'inverse de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire montrer la réalité de la chasse en faisant de l'enquête, de l'investigation et pas de la com. Mais c'est compréhensible que la com se développe.
Mais Marine, au-delà de la com, Marine est une vraie chasseresse en l'occurrence. Et d'autres, hein, je parle de Marine, mais d'autres. Christophe Baticle, d'ailleurs, les chasseurs en France, est-ce qu'ils ont beaucoup évolué et est-ce qu'on peut faire une généralité comme je viens de faire en parlant de chasseurs ?
Non, la première chose à faire, ce serait de s'interdire le singulier. C'est pas moi qui le dis, hein. Marcel Mauss, dès le début du XXe siècle, le montrait très bien. Il n'y a pas la chasse, mais il y a des formes de chasse. Actuellement, elle a tendance à faire l'union sacrée parce qu'elles se sont menacées et parce qu'il y a des débats dans cette société, effectivement, qui prennent des airs de conflits, de civilisation, de choix politiques vis-à-vis de ce que devraient devenir, finalement, certaines activités. Mais effectivement, il faut réutiliser le pluriel. Il y a
vous parlez, je crois, d'un monde de galaxies.
Oui, des petites galaxies, effectivement, avec des univers très différents. Une galaxie de monde où, effectivement, on ne peut pas comparer la grande vénerie, par exemple, avec la chasse au gibier d'eau en baie de Somme ou la chasse aux faisans dans les Landes ou d'autres types de chasse, bien évidemment.
En tout cas, je le disais en introduction, hein, face au nombre de licenciés en baisse, ils étaient 2,2 millions en 1975. Ils sont aujourd'hui, Willy Schran, un petit peu plus d'un million, c'est ça ?
Un petit peu moins.
Un petit peu moins d'un million aujourd'hui, d'accord ? Donc face au vieillissement des chasseurs, j'ai regardé sur le site de la Fédération, la majorité a entre 55 et 64 ans aujourd'hui. Face aux critiques, la Fédération a décidé donc de prendre le taureau par les cornes, en changeant radicalement, on le disait, toute sa communication, et vous en parliez Pierre Rigaud, une campagne vidéo en particulier à la rentrée dernière qui a fait beaucoup parler. On va écouter deux petits extraits, voici le premier.
Tous les week-ends, je vais à la chasse.
Toi, tu vas à la chasse ?
Mmh.
Tu peux marcher ?
Bah non.
Avec ton petit haut fleuri, là ?
Non, pas avec ça, mais...
Et pourquoi pas vous ? Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature.
Alors, il est comment, mon chevreuil quinoa ?
Et le deuxième extrait où on parle comme des Jones.
Et là, il débarque, sorti de nulle part. Un sanglier, mon frère.
Mais tu vis des trucs de ouf à la chasse, toi.
Oh là 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 là.
Dimanche matin, 7h, je viens te chercher, si tu veux.
Je suis hyper chaud, mec.
Alors, 14 millions de vues au total, ça marche, c'est efficace. Marine, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces vidéos ?
Ces vidéos, elles ont pour objectif, de toute manière, de parler aux personnes qui ne connaissent pas et justement d'apporter un peu d'humour et de partage d'émotions. Et je les trouve top parce que jusqu'à ici, on ne communiquait pas. On, comme le disait Monsieur Schran, on vivait caché et je suis contente qu'on puisse un peu montrer ça à la télévision.
Willy Schran, vous avez voulu, je pense, passer d'un cliché qui était véhiculé par notamment le sketch des Inconnus sur la galinette cendrée à peut-être un autre parce que ça paraît un peu gros là, les vidéos malgré tout, non ?
Non, je pense que c'est pas gros du tout pour ceux qui connaissent effectivement le monde de la chasse. Je pense simplement qu'on a voulu la faire voir telle qu'elle est. Et c'est ce qui peut surprendre parce qu'on n'en parlait jamais. Donc évidemment, à partir de là, j'entends que ça puisse effectivement interpeller certaines personnes et une partie des médias d'ailleurs. On est tout à fait d'accord là-dessus.
Mais ça a marché, hein. Mais... je veux dire, moi la première, j'en ai parlé.
Si ça a marché, c'est parce que simplement c'est la vérité. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous dites pas la vérité, si vous ne ressentez pas les choses réellement comme elles sont, ça ne marchera jamais.
C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des bobos, si on le dit comme ça, des bobos parisiens qui vont à la chasse, hein, qui font des chevreuils au quinoa.
Qui vont à la chasse. Bon, il y en a une à ma droite, c'est Marine, par exemple. Non. Je pense d'ailleurs qu'il faut imaginer la chasse pas comme quelque chose qui est directement lié au territoire des campagnes. La ruralité, comme nous on la conçoit et comme elle se vérifie effectivement sur le territoire, c'est pas l'apanage des campagnes. Voilà, la ruralité, c'est pas un point géographique. C'est un état d'esprit et des valeurs fortes qu'on partage. Et il y a autant de gens en ville qui les partagent qu'en campagne. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant de gens en ville et même à Paris. À Paris, ça a extrêmement bien marché. Voilà, quand on fait une manifestation.
C'est-à-dire que vous avez recruté, entre guillemets, des nouveaux adhérents parisiens à la suite de cette campagne?
Depuis le démarrage de cette campagne, effectivement, ça c'était la première. Vous savez qu'on a eu ensuite une campagne télévisuelle qui est passée sur quelques grandes chaînes nationales, enfin celles qui ont voulu accepter la chasse. On a effectivement une arrivée massive de demandes de permis de chasser.
Massive, voilà. C'est quoi une arrivée massive?
On est quasiment au double d'une année normale. Voilà.
Donc
on voit quand même aujourd'hui.
Ça fait combien, pardon, mais je me rends pas compte.
Disons qu'on est habituellement sur une demande autour de 25 000 personnes qui souhaitent passer le permis de chasser. On est au double. On est au double, donc effectivement, il se passe quelque chose. Simplement, mais je le dis toujours, la chasse n'a pas besoin d'être défendue. Elle avait simplement besoin d'être expliquée. Voilà, et corriger la façon erronée dont certaines personnes la présentent.
Pierre Rigaud, ces vidéos dans lesquelles, je le précise, on ne voit jamais un seul animal mort,
parce qu'on n'a pas le droit, Camille Grenier. Sinon, ça ne.
Mais on ne voit pas de gens armés de fusils, par exemple.
On n'a pas le droit. C'est la loi.
Mais sur votre site internet, par exemple, il n'y a pas d'animal mort non plus.
Il y a des vidéos de chasse, vous pouvez en trouver.
Non, voilà. Sur les vidéos, je l'ai explorées.
On a plein de choses, mais regardez ce que fait Camille, ce que fait par exemple Marine, elle ne cache pas effectivement le gibier qu'elle a tué. Nous, on est soumis à des règles parce qu'on est effectivement une fédération nationale et on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau des réseaux sociaux et de la publicité.
Pierre Rigaud, votre regard sur ces campagnes de publicité, aussi bien à la télévision que sur internet?
Plus largement, elle montre une image, c'est vrai, complètement fantasmée, en fait, qui est construite par des publicitaires, en fait, qui est construit, puisque c'est de l'argent dépensé pour ça.
Oui, mais qui marche, hein, Willy Schramm le dit.
C'est ça qui est frappant, c'est qu'en fait, la plupart des gens comprennent bien que la chasse, c'est pas aller se promener avec son chien dans la nature, ce qu'on peut voir dans les campagnes publicitaires. Donc, ça choque, ça fait rire. C'était comme le slogan Premiers écologistes de France. Personne n'y croyait, à part certains chasseurs eux-mêmes. Et du coup, ça fait tellement buzz qu'on en parle, et on en parle tellement que, effectivement, depuis quelques mois, quelques petites années, jamais on avait autant vu les chasseurs invités dans les médias. Alors, du coup, nous, on est obligés de ramer, nous. Disons les écolos, protecteurs des animaux, on est obligé de ramer derrière pour essayer de montrer la vérité
mais
de la chasse.
On peut pas non plus ne pas inviter, on va pas s'empêcher de parler de la chasse et de donner la parole aux chasseurs. Les chasseurs sont partout dans la société. Il y avait un sondage au mois d'avril qui a été fait. Alors c'est marrant, c'est le même institut, c'est IFOP qui a fait un sondage et pour la Fédération Nationale et pour la Fondation Brigitte Bardot. Donc vraiment les deux opposés, mais il y a des choses qui se recoupent. Et il me semble, je regarde le chiffre, 38% des Français déclarent connaître au moins un chasseur dans leur entourage. Donc le maillage, Christophe Baticle, des chasseurs, il existe, il est présent. Et on peut pas se passer de donner la parole aux chasseurs.
Ah ça, c'est pas à moi de décider, alors là c'est à vous de voir. Non, moi je ne m'impliquerai pas dans ce questionnement-là. Non, ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est votre question à vous, Camille Cronier.
C'est
la première fois que je vois apparaître avec autant d'évidence la question du devenir de la chasse. Jusqu'à maintenant, on s'interrogeait sur le rapport chasse et biodiversité, les manières de chasser, ce qui était acceptable, non acceptable dans une société donnée, à un moment donné, bien sûr. Mm-hmm. Tout ça est très relatif, ça va de soi. Si on parle des pygmées baka, vous voyez, on change complètement la problématique. Mais par contre, oui, c'est une des premières fois que j'entends poser aussi explicitement la question du devenir. Ça prouve que quelque chose s'est passé puisque vous vous en faites l'écho.
Et pour vous qui faites des recherches en particulier sur ce sujet-là, les choses évoluent et se fragilisent et donc de toute façon il y a un enjeu aujourd'hui de survie comme je le disais tout à l'heure.
C'est simplement la partie émergée d'un iceberg hein, puisqu'en fait c'est la société qui change, ce sont nos sociétés qui changent. On voit monter, et vraiment cette montée en puissance elle est énorme, une sorte de philosophie de la morale. Et nous-mêmes scientifiques nous sommes confrontés à ça, c'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus d'être dans une attitude qui serait morale. Et ça, c'est un changement de société qui montre que finalement, autour du changement climatique et de la problématique environnementale, la morale s'est introduite comme une donnée centrale, qui nous gêne d'ailleurs, nous, scientifiques, parce que justement, nous, ce qu'on revendique, c'est le droit à prendre de la distance et à pas entrer dans les débats moraux.
Willy Schramm, est-ce que vous avez le sentiment, ou en tout cas c'est même un fait, qu'aujourd'hui les chasseurs, la fédération des chasseurs et les chasseurs en général, tout ce monde-là, n'a pas d'autre choix que de se moderniser et de renouveler ses troupes, en particulier via la jeunesse?
Alors d'abord on s'est toujours modernisé, quoi qu'on puisse en dire, sauf qu'on ne l'expliquait pas. Voilà, donc on a simplement commencé, mis aujourd'hui à parler et à parler aux médias. Donc on a laissé la place vie pendant des années à des personnes comme Pierre Rigaud.
Pierre Rigaud n'a pas volé sa place, il s'est imposé aussi.
Si, il la vole, parce que d'abord il n'y connaît rien. Il s'autoproclame naturaliste. Oui, mais bien sûr. Il fait des vidéos qu'on démonte une par une. C'est même pas nous qui le font, mais c'est elle s'entresse parce qu'il fait des montages pas possibles. En vérité, ça sort de nulle part. Voilà, quand il est dans le col du Lautaret ou qu'il reprend effectivement avec 5 litres de sang sa voiture avec un renard qui a même pas un trou dedans. J'en passe des meilleurs. Donc, il était urgent quand même de répondre à ces gens-là. Moi, j'ai aucune prétention. Simplement, j'ai la prétention de dire ce que nous sommes. Simplement. Et je ne peux plus laisser aujourd'hui des gens comme, que voilà, qui s'autoproclament pour parler de la chasse dans les médias et qui n'y connaissent strictement rien. Voilà.
Mais vous parlez
naturaliste, comme moi je suis première danseuse au Bolchoï.
Vous parlez de Pierre Rigaud en particulier qui était avec nous. Je le disais, c'est un des visages les plus connus des antichasses, mais l'antichasse ne se résume pas à Pierre Rigaud. C'est un mouvement aujourd'hui. Il y a énormément d'associations de défense de l'environnement
vous avez raison,
qui se positionnent contre la chasse.
On est tout à fait d'accord pour
donc,
un débat.
Donc attendez, je finis juste ce que je dis. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas empêcher les chasseurs d'avoir la parole, mais vous ne pouvez pas non plus empêcher les antichasses de l'avoir.
Non,
et Pierre Rigaud
on a juste le droit de dire quand les faits qui sont rapportés sont erronés ou quand les choses ne sont pas vraies ou qu'elles sont transfigurées par rapport à la réalité, et ça on peut le dire. Moi je me suis jamais opposé à aller discuter avec quelqu'un qui ne partage pas mes opinions, et c'est normal, et c'est comme ça que doit se passer le débat démocratique.
Et la preuve, vous êtes
et la preuve, je suis là aujourd'hui. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on transfigure la vérité, et ça je trouve que c'est pas normal. Et là il fallait qu'on intervienne, il fallait qu'on rétablisse effectivement les équilibres.
Pierre Rigaud, vous voyez plutôt comme un lanceur d'alerte et pas comme un naturaliste autoproclamé menteur, comme vient de le...
Non, alors c'était attendu, on a eu typiquement diffamation et attaque ad hominem au lieu de parler du fond technique rhétorique habituel des chasseurs en général. Donc je ne vais pas parler de moi et de répondre point par point sur tous les différents mensonges directement qui me concernent pour expliquer à tout le monde. Moi je suis biologiste de formation, je travaillais pendant 12 ans sur de l'expertise sur la faune, donc mon travail est scientifique rigoureux et je fais effectivement maintenant depuis quelques années plus de l'enquête et de l'investigation. C'est-à-dire je vais sur le terrain, d'autres gens vont sur le terrain, on ramène des images qui ne font pas plaisir, effectivement, parce qu'on montre un peu la face cachée, ce que ne montrent pas les communicants de la chasse. Donc quand montre des pratiques absolument ignobles qui ne vont jamais dans les médias et qui ne sont jamais diffusées par notamment la Fédération de chasse sur la façon de tuer, sur des animaux massacrés avec toutes sortes d'armes d'une façon absolument abjecte, en fait personne ne peut supporter ça, de regarder ce genre d'images, et en fait on les sort avec beaucoup de travail sur le terrain. Effectivement, ça déplaît, mais le problème de fond, c'est pas moi, Rigaud, vous voyez, parce que directement on m'attaque moi, parce qu'effectivement c'est plus facile d'attaquer une personne que de parler du fond de la chasse. Arrêtez de me couper, monsieur Schrein, dans
les vous mettez des gens sur les réseaux sociaux, vous balancez des noms, vous intisez la haine, la violence. C'est important. Moi, je ne reçois pas comme ça. Je dis simplement ce qu'est la chasse, tout simplement.
Alors je termine, parce que c'est bien beau d'être attaqué, mais quand même, laissez-moi le temps de répondre sur ça. Jamais. Je n'appelle à la haine. Tout mon travail.
Quand vous mettez le nom de Mme Philippon sur les réseaux sociaux, c'est la photo d'une femme handicapée avec son fils, c'est quoi ?
Non,
mais il y a des choses.
Non, Willy Schrein, j'ai prévenu, s'il vous plaît, pas de cacophonie. Encore une fois, les auditeurs vont pas être contents.
On va dire des choses intéressantes.
On va le laisser finir et ensuite je donnerai la parole à Christophe Batic et ensuite on écoutera un petit peu de musique.
Mon travail scientifique au départ et maintenant de lanceur d'alerte n'appelle absolument pas à la haine, c'est tout le contraire. Je n'arrête pas de demander aux gens de se respecter et j'aspire, comme beaucoup de gens anti-chasse, à une société plus juste, meilleure, respectueuse des humains.
Je vais juste répondre, Mme Cognier, mais sans aucune violence, c'est important de dire c'est pas vrai. Parce que nous, vous savez, que ce soit Marine à côté de moi, nous ne sommes des gens bénévoles, on parle de notre passion. Monsieur Rigaud se nourrit effectivement de la haine pour la chasse, puisqu'il en a son salaire. Voilà, il gagne de l'argent sur Tipeee,
on balance en débat aujourd'hui, c'est l'avenir de la chasse et c'est important.
Que la personne que vous choisissez d'un débat sur le fond. Comment vous voulez parler du fond avec vous ? Vous balancez un bouquin qui n'est pas celui que vous avez pris aujourd'hui. C'est un cerf de Virginie et vous mettez le titre « Pas de fusion à la nature ».
Oui,
le mec, on ne reconnaît même pas un cerf élève d'un cerf de Virginie.
On va essayer de rester sur le fond, encore une fois.
Monsieur Rigaud reste sur le fond.
Aujourd'hui, l'avenir de la chasse. Je vous donne plusieurs réactions qu'on a pour l'instant d'auditeurs. On a Joël sur Twitter qui nous écrit « La chasse n'a pas d'avenir, plus de gibier sauvage, mais la passion des armes a de beaux jours devant elle. Les Français sont comme les Américains, ils veulent avoir des armes à feu autour d'eux. » Bon, ça c'est une première réaction. Et on a Alain aussi qui nous écrit « La chasse, c'est aussi l'observation et le plaisir de vivre en communion avec la forêt. » Une de mes amies naturopathes dit que dormir dans la forêt, on absorbe l'énergie des arbres. Donc aussi du positif sur la chasse. L'avenir de la chasse aujourd'hui, c'est le thème de ce débat de midi, réalisé comme tous les jours par Valérie Ayestaraï, préparé par Adrien Nazelli et Thomas Gentil. Et Michel Bézikian est à la technique. «
ce que les Français veulent. Non, 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 non. Plus jamais se sentir seul. Non, 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 non. Ce que les Français veulent. Non, 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 non. C'est des câlins,
des câlins,
des câlins. Plus jamais se sentir seul. Non, 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 non. Le matin.
Ce que les Français veulent, c'était Gatien sur France Inter.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Une image qui a largement été reprise et commentée sur les réseaux sociaux.
Un cerf poursuivi par des chasseurs s'est réfugié épuisé dans un chantier de la ville de Compiègne.
Pauvre bête, regardez.
Un cerf à bout de souffle.
Normal, dans Compiègne.
Encore encerclé par la meute de chiens des chasseurs à cour.
La scène est filmée par les militants de l'association AVA.
Hors de là ! Bougez !
Vous avez pas d'âme, hein ? Vous avez pas d'honneur ! C'est de votre faute, s'il est là, c'est de votre faute ! Vous chassez pendant le bras, vous foutez le bordel tout le temps !
Toi, tu te caches, tu commences à nous faire chier ! Dégage !
La chasse à court pour ouvrir la deuxième partie de ce débat de midi consacré à l'avenir de la chasse en compagnie du président de la Fédération Nationale, Willy Schran, de Marine, alias Insta Chasseresse sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc pratiquante de la chasse. Nous sommes aussi avec Pierre Rigaud, naturaliste anti-chasse, l'un des porte-voix des anti-chasse en France, et Christophe Batic, le socio-anthropologue, chercheur, notamment qui a travaillé sur la chasse. Christophe Batic, la vénerie, hein, donc la chasse à court, fait partie des pratiques qui sont particulièrement critiquées, accusées d'appartenir par certains à un autre temps. D'ailleurs, 86% des Français sont pour l'interdiction de la chasse à court. Le chiffre est en augmentation. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles la chasse semble se fragiliser particulièrement ces dernières années en France ?
Ça pose surtout la question de ce qu'on appelle la bonne mort, en fait. Je me permets parce qu'en fait, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a une chose qui est intéressante. C'est qu'à toutes les époques, dans toutes les sociétés, il y a des conceptions dominantes de ce que c'est bien mourir. Ça peut paraître choquant, mais c'est une réalité évidente. Par exemple, à l'époque de Molière, bien mourir, c'était agoniser. D'accord. Aujourd'hui, la bonne mort, en quelque sorte, c'est la mort instantanée, c'est ne pas voir arriver sa mort. Et le débat auquel on a affaire autour des questions de chasse et de manière de tuer l'animal, ça porte autour de ça, sur ces transformations.
Sur ce qu'on appelle la cruauté.
Mais voyez, vous tombez dans un terme qui est un terme forcément connoté, mais qui renvoie à notre époque, qui renvoie à notre monde. C'est-à-dire qu'on est à Paris, on est à la maison de la radio, on est dans un univers bien précis. Vous changez d'univers, on va chez les pygmées Baka au Cameroun, et le sens du mot cruauté va changer.
C'est qu'il y a un décalage de regard, en fait, entre une certaine partie de la société Et ce qui se passe quand vous parlez des...
Un hiatus, oui, un fossé, effectivement. Et ce fossé, il montre bien que la manière de regarder la mort est révélatrice de la manière de regarder la vie en règle générale.
Et donc, selon vous, ça s'applique aussi à la pratique de la chasse à courre.
La chasse en est un symbole, et la chasse à courre particulièrement, oui.
Marine, je parlais de cruauté parce que c'est un terme qui revient régulièrement dans les critiques, notamment de la vénerie. Est-ce que vous, c'est une pratique qui, aujourd'hui, je crois, on le rappelle, il y a 5 à 10 000 personnes en France qui font de la chasse à courre, c'est ça, Willy Schrein?
Mais il y en a plus de 100 000 qui les suivent, d'ailleurs, qui ne sont pas chasseurs, pour dire que c'est une chasse qui plaît énormément aux gens.
Est-ce que vous adhérez à la chasse à courre, Marine?
Complètement. J'ai découvert la chasse à courre il y a quelques mois. Et je suis ravie, c'est une chasse qui permet, on en parle justement pour l'avenir, c'est une chasse qui permet de tous se retrouver, petits, grands, à pied, à vélo ou à cheval. Et c'est justement un moment où on se retrouve, où on partage, et la chasse à courre, je compte bien y retourner davantage.
Pierre Rigaud, ça ce sont des pratiques, la chasse à courre et d'autres, qui posent problème, c'est-à-dire que vous savez très bien du côté des anti-chasses que la chasse ne sera jamais interdite, alors que...
On y travaille.
Vous y travaillez, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. S'il y avait des pratiques comme ça qui sont discutées, qui cessaient, est-ce que ça pourrait aider quelque part à vous réconcilier? Alors, je mets plein de guillemets vu l'état de vos relations, mais vous réconcilier un peu avec le monde de la chasse?
Je crois que pour répondre à cette question, il faut vraiment faire un dézoom arrière sur qu'est-ce qu'on parlait de la cruauté, mais que ce soit la chasse à courre ou d'autres modes de chasse, en effet, particulièrement cruel, entre guillemets. La cruauté, si on la définit plus simplement, c'est-à-dire infliger de la souffrance à un être vivant, un animal, ou un mammifère, un oiseau ou un être humain, sans nécessité, le faire souffrir et le tuer alors qu'il n'y a pas de nécessité pour celui qui la pratique, on peut la définir comme ça, la cruauté, et c'est de moins en moins accepté. C'est-à-dire socialement, effectivement, quasiment plus personne n'accepte qu'on s'amuse à tuer des animaux, surtout en les faisant violemment souffrir et longuement, comme c'est le cas particulièrement de la chasse à courre. Donc, pour le moment, le souci pour répondre à votre question, c'est que les chasseurs s'arc-boutent absolument pour défendre tous les modes de chasse, y compris aussi pour, sur le plan écologique cette fois, et pas sur le plan de la protection des animaux, et y compris pour défendre des pratiques qui mettent en péril la biodiversité.
Mais pardon, vous faites une généralité, Pierre Rigaud, vous dites les chasseurs, il y a des chasseurs aussi qui prônent une chasse responsable, une chasse respectueuse.
Je dis les chasseurs, c'était un raccourci, je parle des dirigeants de la chasse, des représentants. C'est-à-dire concrètement, sur le plan politique, je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille sur un dossier. D'ailleurs, vous en avez déjà parlé à l'antenne, c'est la protection du putois d'Europe, une espèce menacée. Quand je dis les chasseurs, c'est en fait que nous, on travaille pour faire protéger cette espèce parce qu'il y a un consensus scientifique pour dire que l'espèce est menacée et tout le monde, sur le plan scientifique biologique, demande au ministère de l'écologie de classer cette espèce protégée. En face, la fédération de chasse, c'est très concret, s'oppose très concrètement. Donc, on ne peut pas se réconcilier avec un lobby qui travaille pour son propre intérêt au détriment
pour
de l'intérêt général.
Pour quelle raison? Alors, si on prend l'exemple du putois Willy Schrein ou du blaireau, il y a eu aussi beaucoup cette année de vidéos avec des images de déterrage de blaireaux qui ont été très critiquées, très décriées. Ce sont des animaux, on est d'accord, qu'on ne mange pas, à moins que je sois mal renseignée. Pourquoi, par exemple, sur ces dossiers-là, la Fédération de la chasse ne serait pas favorable à ce qu'on arrête de déterrer et de chasser ces espèces-là?
Parce que d'abord, je pense que les gens qui ont cette vision de vouloir arrêter ces pratiques de régulation de chasse, parce que c'est pas toujours de la chasse. Nous, on lit plutôt la chasse quand on a le fait de traquer un animal, de le tuer, de le manger. On est dans une logique de chasse. Et il y a effectivement des animaux qui sont pas mangeables, on va dire. Alors pourquoi intervient le monde de la chasse là-dedans? Parce qu'on est effectivement dans des équilibres écosystémiques importants. Et là, on sort effectivement du sujet à travers le retour à la mort. Voilà. On est exactement là-dedans. Il y a des gens qui pensent que la nature, c'est un monde des bisounours où tout va bien, où tout le monde s'embrasse sur la bouche et ça vit merveilleusement bien. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est pas ça du tout. On est dans un pays qui est surpeuplé, on a donc besoin, il y a des animaux qui ont besoin d'une prédation, d'une régulation. L'action de la chasse, en dehors des animaux, on va dire chassables, mais même ceux-là aussi, c'est toujours un jeu d'équilibre écosystémique. Voilà. Et souvent, pour le bien d'une espèce, même prédatrice et non consommable, comme le putois, par exemple, ou d'autres, comme le renard, qui va très bien, eh ben, si on n'avait pas effectivement l'action d'équilibre et de régulation, qu'est-ce qui se passe?
Alors,
soit une surpopulation...
Ça, l'argument de régulation, Willy Schrein, est contesté régulièrement, y compris par des scientifiques.
Mais oui, alors dans ce cas-là, pourquoi dans les territoires effectivement où on va plus gérer, par exemple, les équilibres entre ces espèces, je prends celle du renard, on arrive à une surpopulation, donc d'abord il y a effectivement un déficit important pour les autres espèces, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La nature régule très bien les choses, et bien ils finissent par avoir une maladie comme la gale du renard actuellement, qui sévit dans les territoires où on ne peut plus réguler le renard. C'est un énorme problème. C'est pareil pour le putois, c'est pareil pour le blaireau.
Après, Pierre Rigaud,
dommages causés aux autres personnes de la nature. Et ça, on ne peut pas. Le monde agricole ne peut pas vivre avec une surpopulation de blaireaux. C'est impossible. On ne peut pas accepter ça.
Un mot, obscurantisme. C'est-à-dire qu'il y a un consensus scientifique, Muséum d'histoire naturelle, Union internationale pour la conservation de la nature, tous les scientifiques de terrain, tous les écologistes scientifiques.
Non, pas de terrain, enlevez de terrain. Non, non. Les mecs dans des bureaux pensent comme ça.
Pardonnez-moi. Laissez-le finir sa réponse.
Entre parenthèses, je suis le seul ici qui a une formation scientifique en biologie, ouais, entre parenthèses.
Ah, je suis content de ne pas l'avoir.
Ben voilà. Et voilà.
En fait, s'il vous plaît, non, non, continuez votre réponse, Pierre.
Ma réponse, elle est très simple. On se heurte à une forme d'obscurantisme qui travaille pour son propre intérêt. Moi, j'aimerais bien, à la limite, que sur certains sujets, les chasseurs. Si les chasseurs, par exemple, si M. Schrein, je suis pas en opposition là, me dit. Demain, comme le consensus scientifique est le suivant, le putois est une espèce menacée, il faut l'inscrire sur la liste des espèces protégées. Si vous venez avec nos ministères pour dire, Madame la Ministre, protégeons cette espèce, eh bien très bien, on y va ensemble. Le souci, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Nous, on y va, et vous, par derrière, vous faites... Vous empêchez absolument.
Et ça serait inenvisageable, Michrein. Ça pourrait avoir de la gueule que vous réussissiez à sauver le putois, en l'occurrence, ensemble.
Mais d'abord, parce que le putois n'est pas menacé dans les deux départements où il est encore piégé, il faut le savoir, il en reste deux. C'est la vérité.
Le Conseil d'État vient d'annuler la décision.
Le Conseil d'État vient effectivement de classer le putois comme une espèce protégée.
Non.
Je crains, protégée, du moins qui n'est plus nuisible, on va dire comme ça. Je crains effectivement que dans ces territoires où il y avait encore effectivement un équilibre avec une petite faune riche et diversifiée qui permettait à cette espèce encore de survivre, parce que le problème du putois, c'est pas le problème de la chasse, c'est le problème de la modification aujourd'hui de la nature qui a été très forte. Donc on a, nous, à travers notre action, la possibilité de maintenir ces espèces.
Mais le fond de la question, Willy Schrein, c'est ce qu'on dit, c'est l'avenir de la chasse. Encore une fois, on a commencé tout à l'heure par parler de la chasse à courre. La Fondation François Sommer, qui abrite le musée de la chasse et de la nature, donc que vous connaissez bien, a publié il y a un mois un livre blanc qu'elle a envoyé à tous les parlementaires. Et elle écrit, je cite, « Pour demeurer une activité répandue en 2040, la chasse doit s'imposer de sérieux efforts d'adaptation à un monde qui bouge beaucoup. » La question, c'est pour ça qu'on prenait la chasse à courre et d'autres pratiques qui font débat. Il y a un moment, il va falloir que vous fassiez des concessions. Lesquelles vous êtes prêts à faire ?
Il n'y a aucune concession à faire.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec la Fondation François Sommer ?
Je sais pas ce que vous interprétez ce qu'écrit la Fondation François Sommer.
Les efforts d'adaptation.
Ça ne veut pas dire de lâcher quelque chose. Quand on estime qu'on a raison. Le problème, c'est que nous, on vit dans ces territoires, madame. On sait ce qui est bon pour la nature. Et si la chasse n'a pas été... Vous savez, M. Rigaud disait tout à l'heure, on se moquait un peu de nous en disant les premiers écologistes de France. Les premiers écologistes de France, c'est 75% des zones humides qui sont gérées et sauvées par nous. Les premiers écologistes de France, c'est 40 000 hectares de jachères fleuries qui sont posées.
On a un message de juste. Oui, mais justement,
les premiers écologistes de France, c'est 20 000 km de haies qui sont entretenues et plantées tous les ans. Les premiers écologistes de France, c'est 3 milliards d'euros écosystémiques. Donc, quand on aura quelqu'un en face de nous qui nous expliquera et qui pourra rivaliser avec ce genre de choses, je vous dis, madame, qu'il y a des espèces qu'il faut gérer. Et on a raison de le faire sur le terrain.
On a un message de Jérémy par mail qui nous écrit, justement, Willy Schrein, ras-le-bol de l'accaparation du terme de rural. Par les chasseurs. Personnellement, je vis en campagne en Charente-Maritime et je représente au même titre que d'autres cette ruralité. Christophe Baticle, c'est le cœur du sujet, la ruralité.
Non, je vais vous contredire une fois de plus, désolé.
Non, allez-y.
Mais en fait, la question de fond, c'est pas l'existence ou la non-existence de la chasse. La question de fond, c'est la question de l'intervention de l'humain dans la nature. Qu'est-ce qu'on appelle nature et quel type d'intervention dans la nature ? Il est là le débat. Alors après, on peut le décliner autour de la chasse ou d'autres sujets, mais le débat de fond, il est là.
Marine, vous qui faites de la chasse, est-ce que vous entendez, malgré ce que disait Willy Schrein, des demandes aujourd'hui de la société ? Alors pas de tout le monde, évidemment, et pas partout, mais aujourd'hui, est-ce qu'en gros, il va falloir attendre une interdiction, comme c'est arrivé il y a quelques jours pour la chasse à la glu, l'interdiction du Conseil d'État, pour que certaines pratiques qui font débat et qui gênent certaines personnes soit arrêté et que vous puissiez continuer une chasse d'un autre type à côté.
Non, je pense surtout qu'en fait, comme la chasse, elle est pas expliquée et mal expliquée, en fait, les médias et les personnes qui vont vouloir montrer leur avis vont donner une opinion qui est complètement faux. Par contre, ce qu'on voit, c'est que moi, je montre la chasse, comment ça représente pour moi, que je montre du début à la fin, parce que la chasse, c'est pas que l'acte de tuer, mais c'est également la préparation, c'est l'approche, c'est la cuisine, c'est la découverte et le partage d'une recette. Et quand on l'explique, on le voit, les personnes ne sont pas contre.
Alors, on a un autre message par mail. Pouvez-vous poser cette question que je n'ai encore jamais entendu poser à vos invités ? Pouvez-vous décrire, je cite le message, le plaisir que vous procure l'acte de mise à mort ? Est-ce qu'il y a un plaisir quand même ? Une fois, Willy Schrein, à l'Assemblée Générale des Chasseurs, j'étais venue interviewer des chasseurs et une dame m'avait dit « Je tue les animaux parce que je les aime ». Est-ce qu'il y a un plaisir, Marine, je vais vous laisser répondre d'abord, à tuer un animal ?
Alors, cette question, elle revient souvent. Est-ce que j'aime tuer des animaux? Est-ce que je prends plaisir? La réponse, elle est partagée parce que, encore une fois, c'est pas l'acte de mort en lui-même. Et quand je tue un animal, je suis partagée par plein d'émotions. Et c'est ça qui me fait aimer la chasse, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui et qui me donne envie de continuer. C'est une émotion qui, au départ, c'est de l'approche, c'est de la quête. On va chercher l'animal, on va le trouver, on va vouloir l'identifier. Après, en effet, il y avoir l'acte de chasse, le tir, qui à ce moment-là procure beaucoup d'émotions qui sont très difficiles à expliquer. Et je pense que les chasseurs sauront autant que moi que c'est compliqué à exprimer. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe derrière. C'est pas, encore une fois, que l'acte de tuer. Donc dire « je prends plaisir quand je tue des animaux », c'est pas ça la chasse, et heureusement.
Christophe Baticle, qui ou quoi aujourd'hui peut faire obstacle à un avenir radieux pour la chasse ?
Quelqu'un comme Jean-Pierre Varnier, par exemple, anthropologue, explique que dans la chasse, il y a un rapport au corps animal, y compris le corps mort. C'est de la barbaque, ce sont des odeurs. Dépecer, par exemple, un sanglier en pleine forêt, voilà, ça crée quelque chose. Si on n'a pas l'habitude, ça peut être assez dur à vivre. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que d'abord, sur l'acte de cruauté, le plaisir à faire mal, en quelque sorte, c'est Jean-Marie Pelt, ici, chez vous, à France Inter, avec Denis Chessoux, qui y avait très bien répondu. Il avait très bien montré que non, c'était pas du sadisme à proprement parler, que le problème est situé ailleurs. Et quand vous avez pris l'exemple de la glu, c'est très intéressant parce qu'en fait, ces animaux pris à la glu ne sont pas tués. Donc vous voyez bien qu'on est dans un débat moral.
Bien sûr.
On est dans un débat de moralité.
Autour de ce que vous disiez tout à l'heure, oui, de notre regard sur ce qui est éventuellement cruel ou pas, en fait.
Le contrat avec la nature, en fait. Quel
le
type de contrat on établirait avec...
un nouvel ordre moral, le bien et le mal.
Je vois M. Rigaud faire nom, mais en fait, on est d'accord, M. Rigaud.
Oui,
c'est quel type de contrat l'humain établit avec l'animalité?
C'est-à-dire, moi, pardon, mais c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'essaie de partir le plus possible du réel, de la biologie, de ce qui est connu. Et à partir du moment où on sait qu'un animal souffre, par exemple un mammifère ou un oiseau, autant qu'un être humain, de la même manière. Quand vous déchargez une volée de plomb dans le corps d'un animal, d'un oiseau, quand vous enfoncez un épieu dans un cerf, ça procure une douleur qui est similaire à celle qu'on éprouverait nous si on nous infligeait les mêmes souffrances, en fait, les mêmes actes.
Donc vous, ce qui vous gêne, Pierre Hugot, c'est ça, parce que au motif que c'est pour un loisir.
C'est-à-dire qu'à partir du moment... Comment dire ? J'essaie de ne pas les juger les chasseurs en tant que personnes, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont chasseurs de père en fils, ils sont héritiers d'une tradition, finalement. Mais c'est l'acte, en fait, que je voudrais interdire. C'est pas s'en prendre aux chasseurs eux-mêmes, aux chasseresses, aux chasseuses. C'est le fait que quand vous faites souffrir, de fait, vous faites souffrir un animal et vous le tuez, alors qu'il n'y a pas nécessité à le faire, simplement, on peut s'en passer. C'est juste qu'à partir du moment où ce n'est pas nécessaire, c'est un peu comme la corrida ou plein d'autres activités qui ont une vraie tradition. Et la chasse, elle était essentielle pour l'humanité pendant des millénaires.
C'est ça qui est passionnant. Je pense, par exemple, aux tendelles. Vous connaissez le principe de la tendelle, c'est le principe de la pierre qui écrase l'oiseau. Autrement dit, c'est la mort idéale pour aujourd'hui. Parce que l'animal, il souffre pas du tout.
Est-ce que vous voudriez qu'on vous écrase une pierre pour mourir? C'est pas terrible.
Il y a eu le cas dans le Vercors avec tous ces gens les deux familles qui sont mortes dans les gorges de la Bourne.
Et en fait, moi, je voudrais pas finir comme ça,
personnellement. Non, mais moi, je sais pas comment je voudrais finir, mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'ils ont pas souffert, mais ça nous choque. Et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui nous choque derrière tout ça ?
Un message d'Hugo sur franceinter.fr qui nous écrit « En tant que végétarien, je trouve que la chasse est une façon plutôt honorable de consommer de la viande si on la compare aux barquettes de viandes industrielles. » On a également un message de Jean-Charles qui nous demande « Pourquoi ne pas interdire la chasse les mercredis et les week-ends en journée de promenade des enfants, parents et grands-parents ?» Parce que Willy Schran, la sécurité, c'est également un argument qui revient régulièrement de la part des non-chasseurs qui ne seraient pas forcément opposés à la chasse, mais c'est un gros problème pour eux, la sécurité, avec le risque d'accident en période de chasse. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Est-ce que c'est un thème sur lequel vous pourriez progresser ?
Alors, c'est un thème d'abord sur lequel on progresse. Alors d'abord, il y a la propriété privée. Voilà, le promener dans la nature, c'est pas se promener dans une nature ouverte. La propriété privée, c'est quelque chose de fondamental en France. Donc il y a un champ, s'il y a un bois, la plupart des chemins d'ailleurs sont des propriétés dites privées. Donc à partir de là, s'il y a des gens qui veulent chasser chez eux le week-end, parce qu'ils n'ont que le week-end pour le faire, et particulièrement le dimanche, il faut aussi le comprendre et l'admettre. Voilà, donc on est plus, nous, sur une idée de partage de la nature ensemble, c'est-à-dire marchons, faisons du vélo et chassons ensemble, à condition de bien se comprendre et bien s'accepter.
Mais donc une interdiction de la chasse, par exemple, le mercredi ou certains jours de vacances ou le week-end, vous seriez pas pour, hein. Vous êtes prêt à faire aucune concession à vous écouter.
Mais vous, madame Cronier, Vous êtes prêt à lâcher votre appartement une nuit par semaine à des gens qui n'ont pas
de toit ? Non, mais ça n'a rien à voir, monsieur
Mais ça
Schwan.
A tout à voir, vous non. êtes chez vous dans
Ma
votre
question,
appartement.
C'est en fait l'idée, et encore une fois, c'est au cœur de ce débat sur l'avenir de la chasse, c'est comment réussir à cohabiter.
Je suis désolé.
Mais excusez-moi de vous poser la question. Ah, si, c'est comme ça que je vous la pose. Répondez à ma question, donc vous seriez prêt à aucune concession.
Est-ce que vous reconnaissez la notion, oui ou non, de propriété ?
Non mais Willy Schrein, c'est moi qui fais les questions, c'est vous qui faites les réponses,
alors
c'est pas l'inverse.
Bien, parce que je suis désolé, vous
non,
posez
mais
mal
ma
la question.
Ma question est claire, c'est est-ce que la Fédération nationale des chasseurs serait prête en période de chasse à certaines journées ne pas chasser pour que les gens voilà se disent bah aujourd'hui il y a pas de chasseurs et ça
mais
rassure
alors,
tout le monde.
C'est le cas. Dès qu'on est effectivement sur des endroits publics, dès qu'on est effectivement dans des forêts d'État, ce genre de choses. Quand vous êtes chez vous, madame, j'estime quand même qu'on a le droit d'être chez soi et de faire ce qu'on veut chez soi. C'est valable dans son jardin, c'est valable dans son champ, c'est valable dans sa forêt. À partir de là, il n'y a pas de discussion de fond à avoir là-dessus. C'est la propriété privée, c'est fondamental. C'est toujours marrant, les gens, comme ils sont très, 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 très léninistes là-dessus, qui sont toujours prêts à utiliser le bien d'autrui.
Pardon, mais parfois, là, encore une fois, c'est des chiffres, c'est le sondage d'ailleurs qui a été fait pour votre fédération. 88% des personnes disent que les chasseurs doivent mieux informer les habitants en période de chasse. 88%, alors, ça veut dire que les gens
ne
savent pas.
C'est, une autre question, c'est la deuxième partie de votre question. Donc on est d'accord sur la propriété privée. On est ensuite d'accord sur une chose, c'est le fait effectivement d'améliorer la sécurité vis-à-vis de la chasse.
Bon, Est-ce qu'il y a des progrès à faire là-dessus ?
Il y a des accidents. Voilà, donc vous savez qu'on a beaucoup fait baisser les accidents, à plus de 70% pour les mortels et à plus de 60% pour les accidents corporels depuis 20-30 ans, donc ça c'est très important. On démarre actuellement une nouvelle formation sécurité, je suis d'accord, applicable à tous les chasseurs tous les 10 ans, ce que nous n'avions pas avant.
Ça c'est nouveau.
Voilà, donc on est en train effectivement, nous on veut tendre vers le zéro accident, il n'y a pas de problème.
Voilà,
bon, le problème, c'est qu'on est en train de foutre la truie quand même à tous les Français, parce que dès qu'il y a un accident, effectivement on le met en avant et il est très très médiatisé.
C'est normal.
Non, c'est pas normal. Voilà, il y a
qu'un vététiste se fasse tuer quand il passe par une balle perdue.
Combien de gens non chasseurs malheureusement perdent la vie à la chasse tous les ans ?
De non chasseurs. Je n'ai pas le chiffre.
Ben voilà,
c'est 90% des chasseurs qui sont dans
c'est
dans les morts
que
chaque
ça,
année.
Parce que malheureusement, nous avons une personne en moyenne tous
mais
les
mais
ans.
Ça n'est pas une raison, même si c'est un de trop.
Mais
excusez-moi,
juste pour vous dire quand même qu'il y en a 30 qui sont tués par les frelons asiatiques quand ils vont dans les forêts. On n'en fait pas tout un pataquès.
Pierre Rigaud, rapidement.
Nous, on travaille sur la sécurité au maximum.
Très vite, vous voyez que c'est difficile d'avancer parce que pour répondre à votre question du débat d'aujourd'hui sur l'avenir, comment peut-on travailler ? Vous voyez qu'il n'y a aucune concession qui est envisagée de la part des représentants des chasseurs, ni sur un jour sans chasse, même, vous voyez, un jour sans chasse par semaine, même ça, ils ne veulent pas lâcher. Sur les espèces menacées, ils ne veulent pas lâcher non plus. Donc, il y a toujours des batailles juridiques entre les associations de protection de la nature et les chasseurs pour essayer, du côté des écolos, de protéger au moins certaines espèces menacées, ni sur les modes de chasse les plus cruels, on n'arrive pas.
Allez, et moi, je ne désespère pas de trouver des solutions juste après Joy Crooks.
Dopamine tuition.
Joy Crooks, c'était Fit Don't Fail Me Now et Valentine Chedebois pour la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
La chasse a-t-elle de l'avenir? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec mes invités, le président de la Fédération nationale Willy Schran, le naturaliste Pierre Rigaud, le socio-anthropologue Christophe Baticle et la chasseresse d'Instagram Marine. Allez, petit tour de table d'ailleurs, la chasse a-t-elle de l'avenir, Marine, selon vous?
Oui, je suis là pour ça. Et c'est ce que j'espère montrer, c'est que justement, les jeunes, et on le voit, les femmes encore plus, sont de plus en plus nombreuses à vouloir passer le permis de chasser, parce que c'est un moment de partage aussi en couple, c'est un moment de partage en famille. Moi, j'ai pas de famille qui chasse autour de moi. Donc,
Mais alors, pardon, sur quel levier il faudrait avancer pour que la chasse aujourd'hui soit moins clivante qu'elle ne l'est aujourd'hui? Et ce débat, on est encore une illustration.
C'est justement de montrer et d'expliquer. C'est toujours ça le sujet. C'est pour ça que je le fais sur les réseaux sociaux. C'est d'expliquer pourquoi je chasse, qu'est-ce que je recherche, de montrer un peu qu'est-ce que moi j'éprouve comme émotion. La cuisine et autour des recettes, ça en fait partie parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vais manger, j'essaye de le remplacer par du gibier. Donc la carbonade flamande qu'on connaît bien, bah, je vais juste remplacer avec du sanglier. Et c'est un peu ça au quotidien. Pareil, les nuggets, je remplace avec du faisan. Et c'est naturel.
Vous n'achetez plus du tout de viande chez un
bien
boucher.
Si, bien sûr. Mais je vais favoriser d'aller chez le boucher plutôt qu'aller acheter une barquette en grande surface parce que déjà, ça n'a pas du tout le même goût. Et je préfère savoir d'où ça vient.
Christophe Baticle, la chasse a-t-elle de l'avenir ?
Moi, c'est pas la question que.
Mais c'est la question. Que
répond un sociologue, répond pas à cette question-là. Un sociologue, il est pas là pour. Je sais pas, madame Irma, j'ai pas de tarot. Non, par contre, il y a un débat qui va se poser entre soit la chasse, on va attendre d'elle qu'elle remplisse une fonction écosystémique, un service écosystémique. Et dans ce cas-là, on entrera dans une chasse gestion un peu à la mode de ce qui se passe dans une pratique germanique.
Et se pose,
c'est-à-dire vraiment des chasseurs qui conçoivent leur acte comme une manière d'aller sélectionner des animaux dont ils estiment que pour l'équilibre agro-sylvo-synergétique, il n'est pas forcément le mieux à même d'assurer leur production, par exemple. Et puis, d'un autre côté, va se poser la question de savoir, mais quel avenir pour une chasse un peu plus hédoniste, plus latine, dont l'histoire, en tout cas, elle s'est bien exprimée au travers des pays latins, où justement, là, on va avoir la question du plaisir, finalement, qui va se poser. C'est-à-dire ce qui est décrié par les anti-chasses, c'est-à-dire prendre du plaisir dans cet acte-là.
Willy Schran, la chasse a-t-elle de l'avenir ?
Je pense que la chasse a de l'avenir, et je pense que les choses vont changer, d'ailleurs. Elles sont en train de changer. Si on a des fois ces débats difficiles avec Monsieur Rigaud ou d'autres, c'est parce que effectivement, d'abord, nous sommes sortis un petit peu, on va dire, du bois. On explique des choses et on sent que la société réagit différemment. Elle est en train de peser le pour et le contre.
Et alors, comment elle pourrait avoir de l'avenir ? Par quel levier ?
On le voit d'abord. La première chose, c'est l'afflux effectivement de gens qui veulent rejoindre nos rangs. Alors que, vu le traitement de choc qu'on reçoit en permanence, mais les gens devraient, même ceux qui chassent actuellement, devraient arrêter et devraient tous se sauver.
Est-ce que d'ailleurs les confinements ont eu un impact sur cet afflux ? Vous en parliez rapidement tout à l'heure, mais est-ce que le besoin de connexion, reconnexion à la nature
S'il y avait un besoin de connexion à la nature, je veux dire, on peut aller dans la nature sans chasser. Et on en est tous conscients, moi le premier. Pourquoi venir à la chasse ? Donc c'est qu'on va plus loin, on cherche quelque chose, on cherche des valeurs, on cherche un équilibre qu'on a perdu dans l'observation uniquement de la nature. Voilà, l'être humain c'est pas ça, c'est s'immiscer dans la nature et la chasse c'est quelque chose effectivement qui porte des valeurs logiques et normales. Vous mettez un gamin quand il a 5 ans, vous lui mettez un arc et des flèches dans les mains, il aura envie de tuer un oiseau avec son arc. C'est naturel à la campagne. Les gens qui vivent dans ces territoires, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça depuis que le monde est monde. Donc on revient à ces valeurs fondamentales et je pense que justement la violence du traitement de choc qu'on reçoit est en train de se retourner contre les gens qui le mènent parce que il y a un besoin aujourd'hui d'aller trouver la vérité. Et la vérité est plus proche de ce que nous vivons que ce qu'on raconte sur nous dans les médias.
Juste avant de reposer la question à Pierre Rigaud, Willy Schran, il y a quand même une vidéo au moins de Pierre Rigaud qui vous a fait réagir et que vous avez validée, qui vous a permis de ne pas cautionner certains agissements quand même. Je pense à une vidéo sur une chasse à l'épieu d'un sanglier. Vous l'aviez regardée ? Chasse à l'épieu, oui, d'un sanglier. J'ai le son. Bah, écoutez, on va écouter.
J'étais servi, c'est ça ?
Ouais, c'est bon ça! Ouais! Meilleur que notre tourelle.
Oui, ça, c'est aussi coriace que ma belle-mère, ça, tu vois.
Voilà, vidéo publiée en début d'année, Pierre Rigaud, que vous avez récupéré. Hein, vous faites des vidéos vous-même, mais vous en récupérez aussi. Willy Schran, en l'occurrence, il y a certains comportements qui sont dénoncés par ces vidéos que vous dénoncez vous-même.
Dans cette vidéo, je me rappelle très bien, mais on m'a posé la question, je ne vois pas de comportement condamnable, hormis les mots. Bah, après, bon, l'émotion est intense, tuer un animal. Mais non, parce que fondamentalement, nous, ça ne nous choque pas de tuer un animal.
Oui,
il y a une quête derrière.
Certains comportements individuels, comme partout, dans n'importe quel milieu.
Il n'y a pas de mauvais comportement. D'accord. Il y a un animal qu'il faut mettre à mort parce que c'est la chasse. Parce que c'est la chasse et c'est tout à fait normal. Voilà. Moi, vous savez, depuis que je suis gamin, je vois j'ai vu mes grands-parents avoir des lapins dans les clapiers. On jouait avec eux dans la journée. Le soir, on lui mettait un coup dans les oreilles, on le mangeait. C'était la vie et c'était normal.
Pierre Rigaud, la chasse a-t-elle de l'avenir?
Pour savoir si ça a de l'avenir, je pense qu'il faut faire un tout petit bond dans le passé, à peu près 1 million d'années, voire un petit peu plus. La chasse, à l'époque, était absolument essentielle pour la survie et le développement de l'humanité. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est un fait scientifique. Et d'autre part, l'empathie a été fort utile dans le développement de l'espèce humaine, comme chez plein d'autres espèces, prendre soin des autres personnes du groupe, des plus faibles, des jeunes, des personnes âgées. Et le fait d'avoir une capacité individuellement à exprimer de la violence pour tuer des animaux, parfois très dure, a permis justement de pouvoir se nourrir. C'était à une époque. Donc, en fait, nous avons en nous hérité de tout ça, à la fois de l'empathie et à la fois de la capacité à produire de la violence, en fait. Et c'est entretenu culturellement, c'est pour ça que je suis presque d'accord avec ce qui vient d'être dit par le président des chasseurs, à savoir que souvent c'est culturel, de père en fils, dans les villages, dans les campagnes, certaines campagnes, on auto-entretient ça. Mais je pense qu'on doit aller simplement vers le développement plutôt de l'empathie que plutôt de la cruauté. Voilà. Et donc je pense que c'est le sens de l'histoire et le sens du développement de la société aujourd'hui.
Allez, un dernier chiffre, Christophe Baticle.
C'est intéressant, le sens de l'histoire. En fait, on a un dialogue entre personnes qui pensent avoir le sens, un certain sens de l'histoire. C'est tout à fait révélateur.
Alors justement, 86%, je fais un dernier chiffre sur ce sondage qui était très intéressant, 86% des personnes pensent que la Fédération des chasseurs et les associations de défense de l'environnement devraient plus souvent mener des actions communes, agir ensemble. Alors je vous pose la question avant de finir, Willy Schran, Pierre Rigaud, est-ce qu'on a un espoir qu'un jour vous travaillez ensemble?
Ah non, mais avec les associations pour la protection de la nature, on travaille beaucoup. Au niveau local, on travaille énormément.
Il y a beaucoup d'associations de protection de la nature qui sont anti-chasse. Mais... je pense à l'ASPAS, à One Voice, à d'autres.
Prenez la LPO, par exemple. Il y a le discours national, il y a la réalité de ce que nous faisons dans les territoires. Et on a beaucoup, beaucoup de travaux en commun dans les territoires. Il y a la posture politique, qui est la mienne et qui est celle de dirigeants de grandes associations. La réalité, c'est qu'on est quand même tous sur une seule chose. On a besoin de plus de biodiversité, on veut défendre l'écologie.
Pierre Rigaud, rapidement, vraiment très rapidement.
Bah, très vite, nous, on essaie de protéger notamment des espèces menacées et on se heurte sans cesse à la Fédération des chasseurs. On voudrait bien travailler avec eux, c'est pas possible.
Bon, allez, il y a de l'espoir. Avant de se quitter, le mini débat du jour, c'est toujours très anecdotique par rapport au sujet du jour, pas toujours de très bon goût. Aujourd'hui, vous avez le choix entre deux propositions. Écoutez.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu
Michel Delpech ou de l'autre côté.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur.
Allez, très vite, Pierre Rigaud, Chantal Goya, Michel
Delpech. Delpech pour une société sans violence.
Guillaume Herner m'a fait le coup il y a déjà quelques années, donc non, je ne prendrai pas parti encore une fois.
Willy Schran.
Ni l'un ni l'autre, il n'y a que les cordes de chasse que j'écoute.
Et Marine.
Pareil que M. Schran.
Bon, en tout cas, c'est sur Twitter, c'est Michel Delpech, le chasseur, qui gagne avec 63% des votes, 37% pour Chantal Goya. Merci beaucoup.